Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Bah, dis donc, il commence fort. La mort, voilà un sujet qui plombe un peu l'ambiance. Disons que nous allons essayer de transformer ce plomb en or. Outre qu'un kilo de plomb équivaut à un kilo de plume, optons pour la plume légère. Cependant, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde. Si la vie a un début, elle doit bien avoir une fin. Une vie qui ne se terminerait jamais, éternelle, ne serait pas une vie au double sens. Simone de Beauvoir en a fait un roman, « Tous les hommes sont mortels ». Et son héros, qui n'arrive pas à mourir, vit un véritable enfer. La mort est donc une porte. Et outre que dans l'existence on peut naître plusieurs fois, la mort est une idée qui nous apaise, nous donne la force de supporter cette existence-là. Un des plus admirables récits de mort, la mort de la grand-mère qui clôture sur des dizaines de pages le premier chapitre. Mais peut-on appeler chapitre une partie, un ensemble qui fait 300 pages? Dans Le Côté de Guermantes, roman de l'adolescence et de la rencontre, où Proust, après l'enfance qui efface toutes les aspérités, nous confronte avec le réel et donc la mort. Au terme d'une longue déchéance, puis d'une agonie, qui prend le temps qu'il faut, ce temps suspendu, infini, figé, qui précède la mort d'un proche. Voilà le récit que nous fait Proust de la mort d'un être humain. Tout d'un coup, ma grand-mère se dressa à demi, fit un effort violent, comme quelqu'un qui défend sa vie, Françoise ne put résister à sa vue et éclata en sanglots. Me rappelant ce que le médecin avait dit, je voulais la faire sortir de la chambre. À ce moment, ma grand-mère ouvrit les yeux. Je me précipitai sur Françoise pour cacher ses pleurs, pendant que mes parents parleraient à la malade. Le bruit de l'oxygène s'était tu. Le médecin s'éloigna du lit. Ma grand-mère était morte. Suit alors le moment où Françoise peigne la morte, admirable passage d'une poésie délicate. Quelques heures plus tard, Françoise put, une dernière fois, et sans la faire souffrir, peigner ses beaux cheveux. Mais maintenant, au contraire, ils étaient seuls à imposer la couronne de la vieillesse sur le visage redevenu jeune, d'où avaient disparu les rides, les contractions, les empattements, les tensions, les fléchissements qui, depuis tant d'années, lui avaient ajouté la souffrance. Comme au temps lointain où ses parents lui avaient choisi un époux, elle avait les traits délicatement tracés par la pureté et la soumission, les joues brillantes d'une chaste espérance, d'un rêve de bonheur, même d'une innocente gaieté que les années avaient peu à peu détruit. La vie, en se relevant, venait d'emporter les désillusions de la vie. Un sourire semblait posé sur les lèvres de ma grand-mère. Sur ce lit funèbre, la mort, comme le sculpteur du Moyen-Âge, l'avait couché sous l'apparence d'une jeune fille. Maintenant, l'interview de M. Martin, qui officie et organise des enterrements à l'église.
Eh bien, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions par téléphone. Je crois, comme on a dit, que vous officiez lors des enterrements. Comment nommeriez-vous votre tâche ?
Eh bien, bonjour. Oui, effectivement, depuis quelques années, j'accompagne les familles en deuil et il m'arrive aussi de conduire des obsèques lorsque les prêtres ne sont pas disponibles. Alors, ma tâche, eh bien, elle est d'abord auprès des familles que je rencontre. C'est une manière pour moi d'être en empathie avec les personnes là qui vivent le drame des obsèques. Et puis en tant que chrétien et je vois aussi une certaine forme d'évangélisation puisque on va pouvoir à cette occasion évoquer le sens de la mort et le sens que un chrétien donne justement à cette mort.
Alors, y a-t-il un enterrement type standard un peu? Et alors, dites-moi à peu près le déroulement d'une cérémonie lambda.
D'accord. Alors effectivement, la liturgie des obsèques est maintenant unique, alors que dans le passé, il y avait plusieurs niveaux. Hein. Maintenant, voilà comment elle se passe. On évoque les décès avec l'idée que au cours des célébrations, il y a des symboles qui sont mis en évidence. Le premier symbole est celui de la lumière. Nous, au cours de la célébration, on va allumer des cierges autour du cercueil, cierges qui seront allumés à partir du cierge pascal, qui est pour les chrétiens le symbole de la résurrection. Ce cierge pascal étant allumé chaque année à Pâques pour rappeler que si le Christ, Fils de Dieu, est bien mort, il est aussi ressuscité. Et c'est ça qu'on rappelle dès le départ d'une célébration pour dire que le défunt est déjà dans la lumière du Seigneur. Vient ensuite un temps de la parole avec des textes qui sont là pour rappeler que la mort est un passage et aussi pour chercher à réconforter l'assemblée, en particulier la famille qui est en train de vivre le drame. Réconforter et donner ce qu'on appelle l'espérance chrétienne, à savoir que le défunt est maintenant près de Dieu pour vivre éternellement dans le bonheur d'être dans les bras de Dieu. Viendra ensuite la fin, en quelque sorte, de la liturgie, qui consiste à faire deux gestes qui sont aussi des gestes symboliques très forts. L'un, c'est l'encensement du corps. Hein, dans toutes les civilisations où on honore le défunt, eh bien, on a cherché à manifester ça d'une manière ou d'une autre. Et l'encens, ce parfum qui est proposé, on le retrouve aussi dans beaucoup de religions. Eh bien, l'Église catholique en a fait sienne. Et voilà, on encense le corps et le célébrant va dire que la fumée de l'encens monte vers le ciel avec notre prière pour le défunt. Et puis, dernière étape, qui n'est pas la moindre, c'est de rappeler que le défunt, lorsqu'il est baptisé, bien entendu, eh bien, va être à nouveau plongé par l'intermédiaire d'une bénédiction à nouveau dans l'eau du baptême pour renaître homme nouveau, femme nouvelle et enfant de Dieu. Et voilà comment se passe la célébration d'une façon qui est maintenant établie pour tous les obsèques.
Très bien. Y a-t-il un enterrement qui vous a plus particulièrement frappé ou marqué?
Alors, effectivement, il y a des obsèques qui sont plus émotionnelles et plus prégnants que d'autres. Je pense notamment à chaque fois que j'ai accompagné des familles qui avaient vécu des deuils de personnes jeunes, hein, aussi bien que à la suite d'accidents que de drames comme des suicides ou de maladies invalidantes qui finissent par faire mourir la personne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une tension supplémentaire, une douleur qui s'exprime souvent par les familles et qu'il est plus c'est toujours plus difficile à vivre, y compris par l'Assemblée, hein. Voilà. Par contre aussi, j'ai vécu des célébrations qui avaient peu de caractère de foi, hein, parce que ces personnes-là avaient un peu utilisé l'Église comme moyen pour exprimer à leur manière ce que représentait le défunt. Et je me rappelle d'une célébration notamment où les familles avaient demandé qu'un orchestre soit là avec musique, chant profane et manifestations qui n'avaient plus du tout le caractère liturgique qu'on devait attendre. Voilà, donc une déception de ce côté-là, un étonnement et il a fallu aussi accepter ça.
Et comment voyez-vous, si c'est envisageable, votre propre enterrement ? Y pensez-vous ?
À force, bien sûr, de fréquenter les familles qui vivent ces moments douloureux, on est obligé, et c'est fort bien, pour moi, c'est une chance de réfléchir au sens de la mort et tout ça. Il me semble que j'aurais peut-être le désir, c'est pas encore le cas, c'est pas encore exprimé totalement, mais de préparer moi-même ma future célébration d'obsèques. Je pense que je suis arrivé à la conclusion que effectivement nous sommes appelés à quitter cette terre. Nous sommes nés, nous allons mourir, et donc c'est pour moi une évidence. Voilà, simplement mon espérance c'est de pouvoir, en tant que chrétien, eh bien me dire que c'est auprès de Dieu que je vais me retrouver. Et je sais très bien que la séparation d'avec sa famille, d'avec ses proches, d'avec ses enfants, ses petits-enfants, son épouse ou ses amis va être quelque chose de douloureux, se retrouver en situation de passer de vie à trépas, comme on dit, c'est toujours un moment difficile. Maintenant, voilà, je me suis fait à cette idée et je sais que, sans m'y préparer, eh bien, je sais que voilà, c'est quelque chose qui va arriver.
Mmh. Eh bien, merci de nous avoir répondu au téléphone. Sans temps mort et à bâton rompu.
Au revoir.
Maintenant, intéressons-nous à un tableau d'Arnold Böcklin. Il s'agit de la version de Bâle, car Arnold Böcklin peignit 5 tableaux sur le même thème. Un tableau a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, sous les bombardements de Rotterdam. Ce tableau s'intitule « L'île aux morts ». Au coucher du soleil, on aperçoit une île au milieu des flots. Une embarcation, chez les Grecs, Charon était le passeur qui menait les âmes au royaume d'Hadès. Charon, fils d'Éreb, l'obscurité, et de Nyx, la nuit. Donc l'embarcation est en passe d'aborder l'île. Une femme tient les rames, tandis que le défunt, recouvert d'un suaire blanc, laiteux, debout, attire le regard et rend moins obscur le tableau, où prédominent les grands arbres, des cyprès, formant un trou noir, une bouche d'ombre. Dans la première version, le cercueil et le spectre n'existaient pas. Böcklin le rajouta à la demande de Marie-Bernard Christ, qui lui avait commandé un tableau propice à la rêverie. Cette dernière exigea deux rajouts, le spectre debout et le cercueil. Un petit peu d'histoire. En 1864, elle avait épousé M. Bernard, qui mourut un an plus tard. En 1880, alors qu'elle commande ce tableau, elle se fiance avec le comte Valdemar von Oriola, et afin peut-être d'atténuer sa culpabilité, elle émit ce vœu d'être représentée en train d'accompagner son mari. C'est elle qui devient le nocher, le passeur, jusqu'à Lille, et ainsi dire oui à la vie et clore son deuil. La mort chez l'homme n'est pas seulement l'après-vie, le moment où tout s'arrête. Elle est aussi, c'est ce que Freud n'aura de cesse de montrer, au cœur de la vie, comme une force de déliaison, le retour à un état absolu d'immobilité. Si la mort finale n'est rien, la mort qui travaille en secret, en sourdine, sur l'autre face de la même monnaie, l'autre face c'est l'éros, le mouvement qui lie, et l'essentiel d'un nouable indémêlable. Les deux fils se mêlent et se confondent. Bergson, lui, s'est préoccupé d'un phénomène psychologique étonnant appelé la vision panoramique des mourants. Il s'agit d'un phénomène qui est celui de l'aperception hypermnésique de notre vie entière lorsque, soudain, un danger de mort est avéré. Souvent, c'est des gens, par exemple, qui se noient. Pour Bergson, c'était la preuve que rien n'était oublié et que toute la vie, toute notre vie était enclose en notre esprit, en quelque sorte pliée, et que le risque de mort imminente pouvait œuvrer à un dépliement instantané. Cela serait resté théorique si je ne l'avais moi-même vécu. Il y a plus de 30 ans, je sortais de la baignoire, et bêtement je prends une lampe électrique. Je m'électrocute, alors je vois non seulement toute ma vie défiler de ma naissance au moment où je pense c'est la fin, mais alors que le film se déroule à vitesse grand V, une idée s'impose à moi, l'amour que je porte à ma femme, et la certitude que je n'ai pas assez aimé. La mort qui approche dans l'urgence libère tout ce qui était recouvert sous les couches superposées d'un palimpseste et permet de retrouver sous les écritures successives la marque, la trace d'une direction originelle donnée à notre vie, qu'on appelle désir. Jean-Louis Murat nous chante Le monde intérieur.
voir le monde d'en haut, laisser sa humeur dans le lointain, quitter lunettes et chapeau, quitter tout, quitter la méwaya. On voudrait voir d'en haut que poussent des ailes pour un rien, se réveiller nouveau, s'apercevoir flou dans le lointain, quitter claquettes et banjo, quitter tout, quitter la tous un alcool vers le 15 août pour espionner, pour voir d'où ça vient et où ça veut aller, quitter lanterne et briquet, quitter tout, quitter la un cheval, un bon cheval pour se distancer, se voir enfin dans la glace, savoir une fois pour toutes qui l'on est, quitter Pigalle et Loulou, quitter tout, quitter la mévoya. Plonger vers l'inconnu, vers le grand rien, qui ton fils a idée, oh, quitter tout, quitter la méwaya.
Non pas l'expérience de la mort, parce que je ne serai pas là pour conclure et vous parler au micro, mais son approche. Seulement son approche, le quasi-franchissement de la limite, ouvre-t-elle à la vie de nouvelles perspectives, ce qui, somme toute, m'amène à penser que penser autour de la mort, ou plutôt de notre mort, est aussi une manière de nous réconcilier avec la vie. Merci à Simon à la technique, et au mois prochain pour une nouvelle émission sur les dimanches.